Bienvenue sur Radio Créaume. Vous êtes à l'écoute d'un extrait du colloque international « La tuerie de l'école polytechnique 20 ans plus tard, les violences masculines contre les femmes et les féministes », colloque qui a eu lieu à l'UQAM les 4-5-6 décembre 2009.
Merci. Et la dernière intervenante, Annie Obomsawin-Bégin, est étudiante à la maîtrise en philosophie à l'Université de Montréal, intervenante à la maison Flora Tristan, maison d'hébergement pour femmes immigrantes victimes de violences conjugales et qui est ouverte également à leurs enfants. Alors, Annie Obomsawin-Bégin.
Merci. Wow, vous êtes vraiment beaucoup. Je n'avais pas remarqué. En fait, première chose, je voudrais vraiment remercier les organisateurs de laisser place à la relève aussi. Je me sens un petit peu intimidée par les gens qui m'ont précédée, mais je vous remercie de m'accueillir quand même devant vous cet après-midi, puis j'espère que je vais arriver à vous présenter quelque chose d'intéressant quand même. Est-ce que vous m'entendez bien?
Oui.
Oui, parfait. Donc, le titre de ma présentation, c'est « Implications politiques et sociales des théories de l'autonomie individuelle ». En fait, je vous explique un petit peu d'où je suis partie avec ça. C'est que moi, étant intervenante dans une maison d'hébergement, on entend beaucoup parler d'autonomie. Il faut vraiment valoriser l'autonomie des femmes, et etc. Et en même temps, j'avais un séminaire sur l'autonomie. Et là, on a vu toutes sortes de théories et je me suis rendu compte, en fait, que l'autonomie, c'était vraiment pas aussi clair que ce qu'on pouvait croire. Donc, ce que j'ai essayé de faire et ce que je vais vous présenter ici, c'est en fait une courte description de quelques théories de l'autonomie pour ensuite vous montrer en pratique qu'est-ce qu'on arrive en découlant de ces théories-là dans la pratique. Lorsqu'un enfant est forcé de prendre les armes dans un conflit et de s'en servir, les tribunaux ne jugent pas de la même façon qu'on juge une personne adulte qui prend les armes parce qu'ils considèrent qu'il n'est pas tout à fait autonome, pas tout à fait responsable de ses actes. Et même si après un certain temps, cet enfant prenait plaisir au combat et commettait des atrocités, on pourrait difficilement dire qu'il est autonome et entièrement responsable de ses actes parce qu'il a été contraint de prendre les armes au départ et parce qu'un enfant n'a pas la même autonomie qu'un adulte. Malgré la gravité de cet exemple, généralement et intuitivement, on s'entend pour dire que l'enfant soldat n'est pas considéré autonome parce qu'il n'avait pas l'âge de raison et parce qu'il n'avait pas de choix alternatif significatif pour agir autrement. Ce que je veux dire par choix significatif, c'est une option intéressante qui est susceptible d'être choisie en raison de son intérêt propre. Pour reprendre notre exemple, si on dit à l'enfant qu'il doit prendre les armes, sinon sa famille sera tuée, pour choisir de laisser mourir toute sa famille n'est pas un choix alternatif valable et intéressant lui-même. Pour cette raison, notre intuition nous dit que cet enfant n'est pas autonome par rapport à sa décision s'il choisit de prendre les armes et de commettre des crimes. Mais les cas de la vie de tous les jours sont rarement aussi clairs. Comment juger, par exemple, de l'autonomie d'une femme qui pense qu'elle n'a pas le droit de s'exprimer ni d'exister dans la sphère publique de la société? Peut-elle être autonome? Quoi penser d'une femme qui n'a jamais appris à parler pour elle-même? Doit-on penser qu'elle n'est pas autonome simplement parce qu'on ne lui a jamais donné l'occasion de parler? Ou encore, quoi penser d'une femme qui croit qu'en dehors du mariage, elle n'a pas de raison de vivre? Peut-elle être autonome en se mariant? Va-t-on juger que son désir de se marier vient d'un désir de sa propre personne ou plutôt qu'il vient des valeurs que sa société lui transmet? Au sein des discussions académiques, il y a peu de consensus sur ces questions. Maintenant, vous me demanderez, mais pourquoi doit-on absolument juger l'autonomie des individus? Et je vous répondrai que c'est important parce que souvent les acteurs sociaux tels que les politiciens, les travailleurs sociaux, les policiers, les spécialistes de la santé, etc., sont mis devant la position de juger l'autonomie des individus et les conséquences de ce jugement sont grandes pour ceux qui sont jugés. Autrement dit, ce qui m'intéresse dans cette présentation, c'est de comprendre les conséquences politiques et sociales qui résultent du fait d'adopter une vision de l'autonomie plutôt qu'une autre. C'est-à-dire que tout dépendant que l'on considère une personne autonome ou non, on agira différemment envers elle. Il en est de même pour les acteurs sociaux et notre système politique et juridique. Ainsi, pour bien voir ces implications politiques et sociales, je vous propose d'abord de faire un portrait rapide des différentes tendances des théories de l'autonomie. Ensuite, je vous propose d'exposer deux cas de figure qui illustrent bien certains enjeux reliés à la notion d'autonomie. À cette occasion, on verra comment une vision de l'autonomie peut conduire à traiter les agents de manière paternaliste et à l'autre extrême, à ignorer les injustices qu'ils vivent. Je vous propose d'abord de distinguer deux catégories de théories de l'autonomie, les théories procédurales et les théories substantielles. La grande majorité des théories sur l'autonomie récemment écrites sont procédurales. On appelle aussi ces théories « content neutral » parce qu'elles ne prennent pas en considération le contenu des valeurs, des désirs ou des croyances des agents. Ce qu'elles considèrent, par contre, c'est le processus par lequel les agents adoptent des valeurs, agissent ou désirent quelque chose. C'est alors la structure de ce qui motive les actions de cet agent qui détermine s'il est autonome ou pas. Autrement dit, ici, ce qui nous intéresse, c'est le chemin, le comment ou le processus par lequel l'agent agit. Un exemple d'une théorie procédurale est la théorie procédurale historique. Selon cette théorie, on peut déterminer si une personne est autonome ou pas en s'interrogeant sur son historique de vécu. Considérons, par exemple, une jeune femme qui désire se faire refaire les seins. Si on cherche à savoir si elle est autonome par rapport à son désir, on cherchera à savoir d'où lui vient cette idée. Imaginons encore que l'on se rende compte que cette jeune femme s'est faite dire toute sa vie que seules les femmes aux grosses poitrines sont de vraies femmes. Dans ce cas, on peut douter de l'autonomie de cette jeune femme par rapport à son désir parce qu'elle a été fortement influencée, voire forcée par son entourage. La question étant maintenant de savoir si cette influence a été si grande qu'elle n'a pas laissé de place à cette jeune fille pour déterminer elle-même ses intérêts, ce qui est une question assez difficile. Toujours est-il ici que le critère pour déterminer de l'autonomie de cette femme est le processus par lequel elle est parvenue à désirer de se faire refaire les seins. Une autre théorie procédurale dont je veux parler est celle de la compétence. Cette théorie considère que pour être autonome, les agents doivent avoir une certaine compétence. Par exemple, Diana Mayers défend qu'il faut avoir à la fois des compétences pour l'autonomie, telles qu'être en mesure de prendre du recul face à ses propres valeurs, et des compétences indépendantes, telles qu'avoir un travail, conduire, être en mesure de parler en public, etc. Et ces deux types de capacités se développent par la socialisation. Pour cette raison, elle explique pourquoi les femmes sont généralement moins autonomes que les hommes. Elle défend que les deux ont autant de potentiel pour l'autonomie au départ, mais que la socialisation qui les traite différemment mène les hommes à développer beaucoup plus de capacités d'autonomie et de capacités indépendantes. Les hommes ayant accès à toutes les sphères de la société ont beaucoup plus de chances de vivre une variété de situations nécessaires au développement des capacités. Ainsi, c'est le processus de la socialisation et du développement des capacités qui nous indique si les agents sont autonomes ou pas. En résumé, les théories procédurales décrivent l'agent autonome comme celui qui est en mesure de prendre un certain recul face à ce qu'on lui a enseigné. C'est aussi celui qui réussit à harmoniser ses actions avec ce qu'il adopte comme valeur. C'est donc un agent capable de formuler et de suivre un plan de vie cohérent avec ses désirs et ses valeurs fondamentales. Dans le cas de l'autre catégorie de théorie de l'autonomie que je souhaite présenter, les théories substantives, elles ne se préoccupent pas du processus, mais plutôt du contenu des désirs, des valeurs ou des actions. Un exemple d'une théorie substantielle est celle qui considère que l'agent autonome n'adopte que des valeurs dont les contenus favorisent sa propre autonomie. Toute personne qui adopte des valeurs ou des normes qui sont coercitives et fausses ne peuvent donc pas être autonomes. Prenons en exemple une femme qui adopte la norme qu'il est inadéquat pour une femme de s'exprimer en public et d'émettre des opinions. Selon cette théorie, croyant que cette norme coercitive est vraie, cette femme ne pourrait pas agir en société de manière autonome. Pour que cette femme soit autonome, elle doit adhérer à toutes les valeurs qui favorisent son autonomie. Il faut qu'elle croie, par exemple, en l'égalité de la femme et de l'homme. Il faut qu'elle croie que la femme a le droit de s'exprimer et d'agir en société de la même manière que l'homme agit. Ça, c'est seulement des exemples. Cette femme sera autonome seulement si le contenu de ses valeurs sont cohérents avec, avec les valeurs de l'autonomie. Selon les théories substantielles, il y aurait donc en quelque sorte une liste de valeurs nécessaires à l'autonomie d'une personne et tout dépendant qu'une personne adhère ou non à ces valeurs, elle sera autonome ou non. Maintenant, ayant présenté à grands traits ce en quoi consistent les théories procédurales et substantives de l'autonomie, je vous propose de passer à l'analyse de deux cas fictifs dans lesquels les acteurs sociaux sont dans la situation où ils doivent juger de l'autonomie des femmes et agir conséquemment. Je vais montrer que tout dépendant que l'acteur social a une conception procédurale ou substantive de l'autonomie, les conséquences sur la femme seront grandement différentes. Imaginons comme premier cas une femme étrangère qui fait le choix de venir au Canada travailler comme aide familiale résidente. En raison des exigences de ce programme d'immigration, cette femme habite obligatoirement chez son employeur et elle doit s'assurer que sa relation avec son employeur est bonne car son statut au Canada en dépend. Imaginons que cette femme travaille plus d'heures qu'il est raisonnable et acceptable de travailler et qu'elle a dû accepter de donner des faveurs de nature sexuelle à quelques reprises aux frères de son employeur. Imaginons encore que des politiciens sont en train de réviser les politiques d'immigration du Québec et qu'ils se questionnent à savoir si on devrait mettre fin à ce programme d'immigration. Imaginons même qu'ils souhaitent s'assurer que ce programme ne porte préjudice à personne et respecte l'autonomie de tous. Que décideraient-ils? Selon une perspective procédurale, on pourrait défendre que la femme est autonome car elle a choisi de venir au Canada et que de travailler comme aide familiale résidente fait partie de son plan de vie qu'elle a choisi. Si on abolit ce programme d'immigration, plusieurs femmes n'auront jamais la possibilité de venir immigrer au Canada. Cette femme n'a peut-être pas été autonome au moment où elle a dû donner des faveurs de nature sexuelle aux frères de son employeur, mais par rapport à son plan d'immigration, elle demeure autonome. Diana Mayers nomme ces deux types d'autonomie, autonomie programmatique et autonomie épisodique. Elle explique qu'une personne peut à la fois être autonome de façon programmatique, c'est-à-dire autonome dans un cadre plus large, au niveau de ses plans de vie, et de ne pas être autonome au niveau épisodique, c'est-à-dire dans un cadre plus ponctuel qui concerne un événement en particulier. Il serait donc possible de dire que cette femme qui a choisi de venir au Canada à titre d'aide familiale et qui souhaite probablement devenir citoyenne canadienne par la suite est autonome. Il n'y aurait donc aucune raison de mettre fin à ce programme d'immigration et même que si l'on pense au bien-être des femmes vivant dans les pays étrangers qui veulent immigrer au Canada, il vaut mieux conserver et faire la publicité du programme. Selon une perspective substantive, cette femme n'est pas autonome parce qu'elle agit en ayant intériorisé une croyance fausse qui n'a pas besoin d'être tout à fait explicite pour bel et bien exister, une croyance qui dit qu'une immigrante doit accepter de donner des faveurs de temps à autre pour obtenir la chance d'avoir un statut. Même si personne n'a consciemment essayé de faire croire une telle norme à la travailleuse, et peu importe qu'elle soit d'accord ou non avec cette norme, si ce qui la pousse à accepter de donner des faveurs est motivé par cette croyance, alors cette femme n'est pas autonome. Selon cette interprétation substantive de l'autonomie, un politicien pourrait défendre qu'il faut mettre fin à ce programme d'immigration ou à tout le moins en faire une sérieuse réforme parce qu'il met les femmes dans une position de vulnérabilité extrême, ce qui les encourage, à adopter des valeurs fausses et coercitives et les décourage donc à exercer leur autonomie. Pour le deuxième cas de figure, imaginons une situation dans laquelle une femme est victime de violences exercées par son mari. Un voisin appelle la police parce qu'il entend des cris de femme, la police arrive sur les lieux et demande à la femme si c'est un problème car les voisins ont entendu des cris. La femme répond alors qu'il n'y a rien de grave, que tout va bien maintenant, que son mari est un bon mari, etc. Les policiers expliquent alors que si la femme le désire, elle peut déposer une plainte et alors ils pourront lui venir en aide. Mais la femme refuse et assure bien les policiers qu'elle n'a pas besoin d'aide et qu'elle va très bien. En réalité, il y a bel et bien abus de la part du mari, mais cette femme a des motifs normatifs pour essayer de cacher la violence. Par respect pour son mari et pour sa famille, elle ne veut pas porter plainte. Elle ne souhaite surtout pas salir la réputation de son mari, celle de sa famille, ni la sienne. Selon les lois existantes, si la personne victime de violences conjugales ne veut pas porter plainte elle-même, la police est dans l'obligation de le faire si elle juge qu'elle a des motifs suffisants. Cette procédure a été mise en place pour protéger la victime qui ne porte pas plainte par peur des représailles de son agresseur et pour passer un message clair aux agresseurs que la violence conjugale au Canada n'est pas de l'ordre du privé, mais du criminel. Or, ce faisant, la police va à l'encontre de la volonté au moins immédiate de la victime. La question est donc, si l'on veut respecter l'autonomie de la femme, doit-on porter plainte à sa place? Selon une perspective procédurale, on peut défendre que la femme de l'exemple est autonome, car les raisons qui la poussent à ne pas vouloir porter plainte ne sont pas des raisons coercitives telles que la menace ou la peur. Par le mariage, cette femme a pris des engagements personnels importants et a donc réfléchi à ses valeurs profondes. Suite à ces engagements, qui sont alors en harmonie avec ses idéaux et ses désirs, elle refuse de porter plainte. Ainsi, si la police interprète que cette femme est autonome et qu'elle est bien en contrôle de la situation, la police ne portera pas plainte et l'histoire se terminera ainsi, juste à temps qu'il y ait un autre épisode de violence. Selon une perspective substantive, on pourrait dire que cette femme n'est pas autonome en raison des normes coercitives qu'elle a intériorisées. En effet, même si elle approuve les normes qui la poussent à agir, si ces normes sont fausses et coercitives, elle ne peut pas être autonome. Cette norme pourrait, par exemple, être que les réputations du mari, de la belle-famille, de sa propre famille sont plus importantes que son bonheur personnel. Selon cette norme, il vaut mieux se sacrifier à la manière d'un bouc émissaire et sauver l'honneur des autres. Ce qui nous amène à considérer ce que Natalie Stolger appelle l'intuition féministe. Cette intuition consiste à dire qu'il y a des cas où l'on considère qu'une femme est autonome, mais que de la considérer comme telle, c'est de ne pas rendre compte d'une oppression plus subtile envers cette femme. Ce sont les cas où des valeurs misogynes sont intériorisées et poussent les femmes à faire des choix non autonomes. Il me semble que le cas de la femme victime de violences conjugales qui ne veut pas porter plainte à la police pourrait être un exemple de cette femme qui subit une oppression plus subtile et qui n'est pas autonome. Selon une telle interprétation, la police devrait porter plainte malgré la volonté de la femme pour son propre bien-être et son autonomie à long terme. Mais de porter plainte à sa place nous conduit en quelque sorte à adopter une attitude paternaliste envers cette femme. D'une certaine manière, encore une fois, ce n'est pas elle qui décide de sa vie, mais d'autres acteurs. L'enjeu qui me semble ressortir de ces deux exemples est que si l'on adopte une conception exigeante de l'autonomie, alors, on sera d'avis que la plupart des citoyens sont non autonomes et on aura tendance à adopter des politiques et des pratiques sociales plus protectrices ou paternalistes. A contrario, si l'on adopte une théorie de l'autonomie moins exigeante envers les agents, alors on verra des citoyens autonomes plus nombreux et probablement que la tendance des politiques et des pratiques sociales sera plus près d'un laisser-faire. Je ne veux pas ici proposer que l'on adopte une conception de l'autonomie plutôt qu'une autre. En fait, je tiens à préciser que mon objectif n'était pas de faire un examen rigoureux des différentes théories de l'autonomie, mais plutôt il était de montrer à quel point les désaccords peuvent être grands entre ces différentes théories et à quel point ces désaccords peuvent avoir des conséquences particulièrement sur la vie des femmes. En effet, comme on l'a constaté dans les deux cas de figure, d'une théorie à l'autre, les acteurs sociaux ont des attitudes diamétralement opposées. L'état de mes recherches ne me permettant pas de proposer la conception de l'autonomie qui soit la meilleure pour promouvoir l'autonomie des femmes et des citoyens en général, je souhaite au moins proposer cette piste. Que l'on soit plus attentif aux liens qui existent, d'une part, entre notre interprétation de l'autonomie et de l'autre, les politiques et les pratiques sociales qui ont des conséquences sur les femmes. Peut-être qu'en faisant ce lien, ce sera déjà un début pour trouver éventuellement des pratiques sociales et politiques plus respectueuses de l'autonomie des femmes. De plus, si notre souhait est de faire la lumière sur les violences et les injustices commises envers les femmes, je crois que nous devons faire un examen sérieux des valeurs et des tendances conceptuelles qui soutiennent nos sociétés encore patriarcales.